Trainville PM. La voix est libre.
T'sais, moi, j'ai parlé du fait qu'on a trois universités anglophones au Québec, qu'on a créé un secrétariat pour les anglophones, que c'est important que les deux peuples fondateurs du Canada soient bien servis. Donc, j'ai fait valoir tous les arguments que je pouvais.
Voici Luc Lavoie.
Luc Lavoie, bonjour.
Oui, bonjour, Bernard.
Alors, c'est François Legault qu'on vient d'entendre au sortir donc de cette rencontre avec Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. On comprend qu'il a essayé, tant bien que mal, de convaincre Doug Ford soit de changer d'idée, soit d'atténuer la portée des décisions qu'il a prises concernant les services en français puis la fameuse université francophone. Mais je pense pas qu'il a réussi à le faire changer d'idée pour le moment, en tout cas. Et toi, c'est évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour toi là, que cette décision-là.
Bien sûr.
Mais tu veux l'analyser sous l'angle des répercussions que ça pourrait avoir?
Des répercussions que cela peut avoir, effectivement. Alors, imaginons un scénario extrêmement plausible en passant. Imaginons que cette réalité-là devienne crise. Là, puis ça risque de le devenir. Et là, ça monte. Puis tout à coup, le gouvernement de la CAQ dépose son projet sur l'identitaire, laïcité, appelle ça ouais, comme tu veux. Ouais. Puis là, le Canada anglais réagit en disant « c'est dégueulasse, c'est ci, c'est ça, c'est ça ». Ça te fait un mélange qui peut faire quoi? Ça peut faire renaître le mouvement nationaliste québécois, lui donner des ailes, parce que c'est un peu, d'une certaine façon, c'est le même mélange que le jour où tu avais eu pendant ce qui a précédé les accords du lac Meech à Brockville, des gens oui, qui s'étaient essuyés les pieds sur le drapeau du Québec.
Exact.
Alors là, le mélange, là, il est là. T'as Doug Ford qui, avec une apparente insensibilité, ferme les livres là-dessus. Mm-mm. Puis t'as le projet de loi qui est déposé au Québec, puis j'en discute même pas de ça. Là, je dis, il va être déposé au Québec, c'est une promesse, ils vont le faire. J'ai d'ailleurs vu Jolin Barrette en fin de semaine au Salon du Livre, puis il m'en a parlé. Alors, ça s'en vient. Puis là, t'as les deux morceaux, là. T'as le morceau numéro un, qui est ce qu'on a fait aux Franco-Ontariens, puis t'as le morceau numéro deux qui va faire lever au plafond tous les chroniqueurs et toute la société canadienne-anglaise, principalement à Toronto.
Lesquels sont étrangement silencieux présentement sur la question des Franco-Ontariens. C'est quand même impressionnant.
C'est à peine s'ils en parlent.
Le silence est assourdissant. Là. Puis dans les deux cas, si tu veux, si les gens se demandent « Ouais, mais c'est quoi le rapport entre la laïcité puis les droits des Franco-Ontariens? » Bien, dans les deux cas, il est question, en tout cas, le débat sera amené sur
Nos frères et nos sœurs francophones d'Ontario ouais, sont traités comme des moins que rien. Puis nous autres, on adopte une loi qui vous plaît pas parce que vous concevez pas la société de la même façon. Et vous allez rentrer ici nous donner des leçons. Imagine le mélange. C'est comme, je sais pas, dans les produits chimiques, il y en a quelques-uns, quand t'es mis ensemble, ça saute.
Ouais,
là.
Ouais.
Et moi, je trouve que ça ressemble drôlement à ça. Et j'espère que le premier ministre Trudeau en est conscient, lui, qui est en année préélectorale. Là, il va être en élection dans 11 mois, 10 mois. Alors, il va falloir qu'il se réveille parce que, bon, le secrétariat aux affaires francophones, ça s'appelait pas comme ça, là, comment il appelait le commissariat aux services en français de l'Ontario. Mm-hmm. C'était une affaire de 3 millions par année. Puis finalement, c'était nouveau. Puis on sait pas trop à quoi ça servait. L'Université de l'Ontario français, ça aussi, c'est conceptuel. En fait, c'était même avancé comme projet. C'était prévu ouvrir en 2020. Mais c'est pas comme une réalité. C'est pas comme on vient de leur enlever une université. On leur enlève un concept. On leur ouais, enlève un projet.
D'accord. C'est pour ça
donc, toi-même, tout à l'heure, avant qu'on entre en onde, tu me faisais valoir que tu connais bien la communauté franco-ontarienne. Moi aussi, j'ai vécu 21 ans dans la région d'Ottawa. C'est pas sûr que ça va avoir la force d'attraction de Montfort.
C'est ça.
Montfort c'était l'hôpital qui avait ouais, été fermé par Mike Harris, puis il a fini par reculer grâce aux tribunaux, mais aussi à la lutte acharnée menée par les Franco-Ontariens qui ont vraiment traité ça comme une histoire émotive. Tu me faisais valoir l'argument à juste titre que, tu sais, les Franco-Ontariens, ils sentaient Montfort, c'était important. Ils étaient nés là, ouais, leurs enfants étaient nés là.
Ouais, ouais.
C'était le seul hôpital en Ontario comme ça.
Une femme francophone pouvait accoucher en français.
En français, complètement. Des services français
ben oui,
tout au long.
Bon.
Et qui avait un rôle dans la communauté aussi franco-ontarienne, surtout celle de la région d'Ottawa.
Exact.
Maintenant, est-ce que ça va lever aussi fort?
Moi, je pense que non, Luc.
Chiffre, tu penses que non. Hein?
Je pense que la charge émotive, parce que justement, comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui était tangible, c'était un rêve, un grand rêve. Moi, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, université bilingue, et déjà à ce moment-là, la communauté franco-ontarienne rêve d'une université francophone. Il y a des collèges francophones, mais il y a pas
l'Université Laurentienne aussi.
Qui était aussi une université bilingue.
Oui.
Mais ils rêvaient d'une université à eux, en français. Ça faisait des années qu'ils travaillaient là-dessus. LACFO, qui s'appelle plus LACFO maintenant. Ils travaillaient, bon, direction jeunesse, tout ça. Et donc, c'était un grand, grand rêve. Ils étaient sur le point de le réaliser, mais ils ne l'avaient pas encore. Comme tu le disais, c'était un rêve qui était sur le point d'aboutir.
Donc, c'est pas comme si je te tire le tapis dans dessous des pieds.
C'est pas exactement. C'est ça. C'est pas comme un hôpital qui existe puis qu'on ferme. C'est pas comme une université qui existait puis qu'on ferme. Par ailleurs, le commissariat au service en français, oui, c'est important parce que dans le fond, c'était le bonhomme qui servait à bonhomme. Je m'exprime mal. C'était le haut fonctionnaire qui, dans le fond, s'assurait que les services en français soient bien donnés à la population. Puis, moi,
les lois ontariennes forcent le service en français.
Exact. Depuis 85, ans. 85.
J'allais dire 20 ans, c'est plus que ça.
La loi 8, moi, j'étais là aussi. Je militais avec les francophones. C'était dans le gouvernement de Peterson, le gouvernement minoritaire de David Peterson. Mm-hmm. C'est Bernard Grandmaître qui était le ministre responsable des affaires francophones à ce moment-là, qui avait fait voter cette loi historique, qui avait suscité beaucoup d'espoir. Et cette loi-là, dans le fond, elle dit les francophones en Ontario ont le droit à des services en français. Et le commissaire était là pour s'assurer du respect de la loi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important, mais à ce point important pour que le feu couvre...
Mais c'était nouveau, en plus. T'sais, on peut pas dire voici ce dont on va nous priver. Ça faisait 2-3 ans que ça existait. C'était Kathleen Wynne qui avait mis ça sur la table. Mais, par exemple, tu connais probablement, toi qui as milité dans ces affaires-là, tu connais probablement Réal Leroux. Leroux, bon, Réal, c'était un ami à moi.
Ça, c'est un vrai.
Ça, c'est un vrai militant.
Un militant franco-ontarien.
Ah, total.
Boy.
Et libéral aussi, mais enfin, oui. Réal, bon, il cache libéral. Pas ses couleurs.
Non.
C'était un entrepreneur assez coloré que les gens d'ici ne connaissent pas beaucoup, mais c'était un gars très intéressant.
Ouais.
J'ai eu des contacts avec lui en fin de semaine. Lui, il pense que ça va lever.
Ah oui?
Lui, il pense que ça va lever.
Ah, ben ça.
C'est parce que si ça lève. Vraiment, puis on peut jamais complètement le savoir. Je pense que ton point de vue est tout à fait valable, mais on le sait pas, là. Si ça lève vraiment là, de terre, là, quand Jolin Barrette va arriver avec son projet, puis que le Canada anglais va réagir de la façon dont on sait qu'il va réagir, là, monsieur, là, c'est l'affrontement là, dont rêvent certains indépendantistes qui pensent que la flamme va se rallumer un jour quand il y aura une erreur grave de commise ou une injustice flagrante faite aux Québécois ou aux francophones, appelons-les comme on veut. Alors, moi, j'espère que M. Trudeau, Justin, est conscient de ça, parce que une des façons de sortir de ça, tu comprends, c'est un chèque.
Ben oui, mais moi, je l'ai testé, cette hypothèse-là. J'ai testé le fait, je demande ça à un contact que j'ai à Ottawa, pourriez-vous proposer de la financer, l'université francophone en Ontario?
Oui.
Je demande ça, moi, à quelqu'un de chez, mettons, de décisionnel au sein du gouvernement libéral actuellement à Ottawa. Et on me répond, l'accréditation des universités relève des provinces.
Oh boy,
le financement ne serait pas suffisant pour lui permettre d'aller de l'avant.
Ouais.
Mettons que...
Moi, je me souviens très bien d'un cas, les gens vont trouver ça intéressant, quand Lucien Bouchard a été ministre au gouvernement fédéral conservateur de Brian Mulroney, il était secrétaire d'État, un poste qu'on appelle maintenant aujourd'hui le ministère du patrimoine, et il était responsable des langues officielles. Il y avait eu un incendie à un collège, je crois que c'était en Saskatchewan, qui s'appelait Mathieu.
Le collège Mathieu.
Oui. Et ça relevait, évidemment, c'est de l'éducation, ça relève des provinces.
Ça, c'est le collège où Jeanne Sauvé, si je ne m'abuse, avait étudié.
Ouais. Alors, c'est passé au feu complètement.
Ouais.
Et là, la province disait, ben là, je sais pas si je vais reconstruire ça. Puis immédiatement, la décision avait été prise de Lucien Bouchard à Brian Mulroney.
On y va,
pour le finance à 100%.
Ben, ça se peut. Moi, sais-tu quoi? La question que tu poses, c'est est-ce que Trudeau pourrait faire le chèque pour s'assurer que l'université... Ben, moi, je pense que c'est pas la réponse que j'ai eue là qui met fin au débat. Je suis convaincu de ça.
Ils vont y penser encore.
Ils vont y penser, bien sûr. Surtout s'ils s'aperçoivent que c'est en train de lever.
Puis je voudrais juste mentionner un autre truc parce que je la connais trop bien. Caroline Mulroney est une femme absolument remarquable qui parle français comme toi et moi, qui a été éduquée en français. Et là, on y met dans les pattes un dossier pareil. écoute, elle a toute ma sympathie. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Je sais pas comment elle va diriger cette affaire-là.
Je vais te dire, elle est dans de beaux draps.
Elle est dans de beaux draps comme début de carrière.
Ah oh, oui, pour quelqu'un qui, je pense, était destiné à une carrière fédérale, là, c'est le genre d'histoire qui peut te suivre longtemps. Moi, je veux juste vérifier auprès des auditeurs. On a quelques minutes. 790-9850. Est-ce que cette histoire-là, de la décision de Doug Ford de supprimer donc des services en français puis de supprimer ce projet d'une université francophone, est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou est-ce que c'est quelque chose qui est bien loin de vous? Vous trouvez que les médias s'enflamment avec ça, mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, peut-être. Je vous pose la question. On va prendre quelques appels, pas beaucoup, là. Juste pour vous tester un petit peu, voir un peu votre niveau d'intérêt. Daniel, tiens, déjà. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Moi, je suis de North Bay en Ontario.
Oh.
Puis mes parents sont originaires du Québec, mais moi, je suis né en Ontario. Mm-hmm. Toute ma famille, j'ai toujours vécu en Ontario. Puis moi, ce que j'espère, n'importe quelle crise linguistique qui touche les francophones hors Québec, ça amène rarement des réactions du Canada anglais. Moi, ce que j'espère voir, c'est une réaction, puis je le vois déjà, puis j'espère que ça continue, c'est la réaction des Québécois face au traitement que nous, on doit subir, parce que c'est pas nouveau. Puis vous l'avez dit en parlant de Montfort, puis en parlant d'autres choses dans d'autres provinces. Mais j'espère que ça réveille un petit peu la fierté nationale, mais pas juste au Québec, mais dans l'entièreté du Canada. Parce que on se bat, nous autres, on se bat tout le temps, à tous les jours, pour continuer à parler en français, pour que nos enfants continuent à parler en français dans un milieu qui est encore plus anglophone que ce qui se passe au Québec. Donc, puis c'est pas pour dire que les Québécois se battent pas pour leur langue, mais je dois vous dire que nous, on se bat pas mal plus à tous les jours pour conserver notre français.
C'est sûr, Daniel. Merci. Vous êtes en contexte minoritaire. Doug Ford s'est adressé aux médias, finalement, là. C'était pas du document d'archives. Et là, Mulroney, voilà, parle aux médias. Et Doug Ford, ce qu'il a dit, moi, j'ai un déficit à combler, alors que Legault, lui, a un surplus. Imaginez-vous, c'est ça qu'il a dit aux médias. Il dit, ce n'est rien de personnel envers les franco-ontariens. Nous, en Ontario, on a 10 collèges avec des programmes francophones. Le Québec n'en a que 3, ce qui est totalement faux. Parce qu'on a les 3 universités, mais on a des cégeps anglophones également. Et là, il a dit, Doug Ford, nous avons 300 cours en français qui ne sont pas complets. Je pense qu'il voulait dire qu'ils ne sont pas comblés par la demande. C'était irresponsable de la part de ma prédécesseur, Catherine Wynne, dis-je, d'avoir accepté de construire cette université. On n'a pas d'argent pour ça, etc., etc. Richard, bonjour.
Oui, écoutez, je trouve ça tout à fait déplorable de la part du gouvernement Ford. Écoutez, je pense que il rit de nous autres quand il dit ça. Son 15 milliards, je veux bien comprendre, mais de ce que j'ai pu voir des montants qu'elle a sauvés avec ça, c'était des peanuts. C'est idéologique et c'est tout. Et puis, on n'a pas le choix que de s'insurger. Moi, en fait, je dirais, autant les Afro-Américains qui ont de la misère à aller voter aux États-Unis avec leurs papiers, autant les francophones hors Québec, dès qu'il y a une minorité qui est attaquée, je ne sais pas si c'est parce qu'on est au Québec, qu'on est nous-mêmes une minorité en Amérique du Nord, mais moi, ça me touche à chaque fois.
Très bien. Richard, merci pour l'appel. Oui, puis il y en a des Québécois comme ça qui sont encore solidaires de la situation des... Dès que tu as voyagé un petit peu en dehors du Québec, puis tu as vu la difficulté de garder sa langue quand tu es francophone,
un de ceux qui est le premier qu'on a
Daniel,
pris en nom, là.
Daniel.
Il vient de North Bay.
Hey.
North Bay, c'est complètement assimilé. J'y ai été il y a à peu près 4
ans.
Il reste encore
des poches.
Ouais, mais.
Comme Sudbury. Il reste encore des poches.
Mais North Bay, autrefois, c'était francophone. C'était la ville des quintuplés, là, des sœurs Diane.
Ouais.
Alors,
ouais, t'as raison,
les jumelles Diane.
Absolument.
Et aujourd'hui.
Il en reste plus beaucoup
de noms francophones.
Oui,
des gens
rues,
qui parlent plus
des noms de rues,
français.
Hein, des noms de rue, puis des familles qui portent le nom.
Oui.
Mais qui
ils ne parlent plus le français.
Tu as absolument raison. On va s'arrêter. Au retour, on continue. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, on peut le dire, Luc, la bonne nouvelle, c'est le rebond.
De Bombardier, oui, qui est en train de reprendre sa place sur la bourse.
À la bourse, ils étaient à plus de 20 % tout à l'heure d'augmentation.
C'est ça, oui.
On va en parler tout de suite après la pause.
Drainville PM. La voie est libre.
Bon, ben, à la bourse de Toronto présentement, l'action de Bombardier se transige à 2,04 $ en hausse de 37 sous ou 22 %, mon Luc.
C'est une bonne nouvelle parce que, écoute, pour nous tous, là, Parce que après avoir mis 1,3 milliard là-dedans, après avoir donné la C-Series pour rien à Airbus, après
que la Caisse ait mis 1,5 milliard dans
plus,
le Bombardier Transport.
Puis après tout ce qui est venu dans les 25 années qui ont précédé... Là, monsieur, au moins, la bourse, ils recommencent à prendre leur place tranquillement. Vont-ils passer à travers? C'est ça l'affaire. J'aimerais mieux qu'ils passent à travers parce qu'avec tout ce qu'on a mis là-dedans, là, et je pense que les marchés se sont calmés.
Sais-tu les mots rassurants de Bellemare dans les deux ou trois entrevues qu'il a données en fin de semaine?
D'après moi, oui. Ça a compté pour beaucoup.
Oui, il a pris la parole puis il a réussi à rassurer les marchés un petit peu.
Je pense que oui. Puis évidemment, les marchés n'avaient pas réagi parce qu'il avait fait 2500 mises à pied. C'est pas les marchés, ça réagit pas comme ça.
C'était le flux de trésorerie.
Le flux de trésorerie, c'était les liquidités qui étaient en baisse. Puis ça, les liquidités en baisse chez un avionneur, c'est énorme. Ça prend du cash, ça prend du liquide en toutes circonstances. Et ça s'en allait. Puis là-dessus, le marché a très, très mal réagi.
Parce qu'il ne l'avait pas vu venir, en fait. Les marchés, ce qu'ils détestent le plus, c'est les mauvaises surprises.
Voilà, puis celle-là, c'est les gens pensent, ah, les mises à pied, puis le marché n'a pas aimé ça. Mais mêlez pas les choses.
Non, non.
Le marché, très souvent, adore les mises à pied parce que ça réduit les coûts, puis ça peut augmenter le rendement, puis ça peut augmenter les liquidités. Mais Bombardier avait un problème de liquidité. Là, en partie réglé, mais il nous a annoncé dans ses derniers résultats que c'était loin d'être réglé. Là, les marchés ont paniqué, bang! Et là, il y a sûrement eu les short sellers qui sont embarqués là-dedans, les spéculateurs purs,
les
puis
ventes,
tout ce que tu veux.
Les ventes à découvert. Oui, les ventes à découvert. Mais tu sais, quand ils décident de vendre le Q400, puis ça, c'est les avions hélices, puis qui vend aussi sa division formation, entraînement à CAE, les simulateurs et tout ça, il va chercher tout près d'un milliard avec ça.
Ça, c'est de la liquidité, ça.
Ben, mais tu te mets à la place d'un investisseur et tu te dis, s'il est obligé de liquider le mobilier pour générer le cash dont il a besoin...
Je pense que là où il les rassure, c'est qu'il a fini par les convaincre qu'ils ont rencontré à Toronto du fait que ça s'accompagne d'un plan.
Oui.
Le plan, c'est qu'il va recentrer l'entreprise, à mon avis, ça m'apparaît de plus en plus évident, autour de deux produits, les trains puis les avions d'affaires.
C'est ça.
Les Challenger puis les Global, puis les Global Express puis toute cette série d'avions-là. Le Q400, c'était rentable, mais pas au niveau de rendement dont avait besoin Bombardier. La C-Series, les CRJ, les jets régionaux, ne sont pas rentables.
Non, ils perdent, je lisais ça en fin de semaine, ils perdent 2 millions par appareil.
Par appareil,
ça, c'est les appareils fabriqués à Mirabel.
Oui. Puis évidemment, il va s'en débarrasser, mais il ne peut plus. Il ne peut plus les traîner avec lui. Il ne peut plus.
Mais là, c'est pour ça que Fitzgibbon, ça nous a tous un peu surpris, au sortir de sa réunion, dis-je, avec Bellemare vendredi, qui dit on est ouvert à un partenariat pour relancer la RJ, un peu comme le Regional Jet, un peu comme ils l'ont fait avec Airbus. Ben moi, je pense que Québec, ils sont déjà dans un mode, essayons de sauver les 50, 70 places, là, les jets régionaux qui sont fabriqués. Qui sont fabriqués à Mirabel.
Et qui ont comme concurrent direct Embraer du Brésil.
Et voilà.
Qui a en grande partie gagné la game.
Alors,
tout le monde le sait.
Ben c'est ça. Alors, la co-entreprise, ce serait...
C'est sûr que c'est la meilleure des idées. Moi, je pense qu'ils devraient laisser aller Bombardier. Le segment des avions d'affaires est en croissance, d'autant plus que Bombardier a sorti deux nouveaux produits qui en font des avions d'affaires proches d'un avion commercial. Ils peuvent aller jusqu'à 27-28 places. Donc, il y a des entreprises qui vont déplacer des gens de l'Europe aux États-Unis.
D'Asie
aux États-Unis aussi. Ils sont capables de faire Montréal, Pékin sans arrêt.
Tokyo, New York, oui.
Alors, il y a un marché très unique et dans lequel ils sont pas seuls, mais pas loin. Il y a Grumman qui est là, il y a Dassault de France, puis il y a eux autres. Puis quelques autres joueurs beaucoup plus mineurs, Mitsubishi, les Honda même sont dans ça. Mais fondamentalement, il se dit, là-dedans, on est fort. D'ailleurs, c'est là que sont les racines d'avionneurs de Bombardier.
Ouais.
C'est quand ils ont acheté du gouvernement canadien pour une bouchée de pain. Ils ont acheté Canada, ils ont hérité des Challenger. Les Challenger, depuis ce temps-là, ont été en s'améliorant. Et c'est devenu l'avion d'affaires de référence dans le monde.
Mais ça voudrait dire que si tu laisses tomber les RJ, tu laisses tomber toute une usine à Mirabel, mon chum.
Oui, mais je pense que s'ils recentrent bien leur affaire, les avions d'affaires vont être en croissance très rapide, d'après moi.
Moi, je vais pas dire. Le fait qu'ils se ressemblent.
Mais ils vont être obligés de rapetisser, Bernard. Ils vont être obligés de rapetisser.
Mais je trouve qu'il ne reste plus grand. Tu sais, je veux dire, il te reste les trains puis il te reste les jets d'affaires.
C'est pas rien.
Je trouve que, ouais, mais en termes de diversification, là.
Oui, mais ils ont été trop loin.
Oui,
mais ils ont été beaucoup trop loin. Ouais, ils ont fait des erreurs de gestion tellement affreuses.
Je sais, mais la série C, ils sont sans doute allés trop loin. Mais je pensais pas qu'ils allaient laisser tomber les avions à hélice puis qu'ils seraient sur le point de laisser tomber les jets régionaux.
Ils sont en train d'étouffer. Ils ont besoin de liquidité pour maintenir, parce que quand ils commencent la mise en marché là, du le Global, je pense c'est 7000 qui s'appelle leur tout dernier, là, qui vient d'être certifié.
Exact.
Quand tu commences la vente de ça, là, au début, tu vends à perte. Tout le monde sait que ça marche comme ça dans l'aviation parce que tu veux que l'avion s'établisse, qu'il y en ait au moins une cinquantaine en vol pour que les gens puissent avoir des références réelles sur ses performances, sur sa qualité et tout ça. Alors, ça prend de l'argent pour lancer un avion comme ça. C'était leur problème avec la C-Series. Quand ils ont fini de le développer puis qu'ils ont finalement obtenu la certification...
Il n'y avait plus de cash.
Il n'y avait plus de cash.
Ben oui, je sais. Mais là, tu sais, tu te rappelles du temps où le RJ fonctionnait bien, on se disait... Je me rappelle, moi, j'en ai couvert des conférences de presse. J'ai fait des entrevues avec les Baudouin là-dessus. Ils disaient, ben, l'avantage d'être diversifié comme on l'est, c'est que si jamais une année où on traverse une phase où les jets régionaux, ça marche moins bien, ben, on a les jets d'affaires.
Ouais.
Puis quand arrive une période plus difficile pour les jets d'affaires, on a les jets régionaux. Bon, mais là, si on n'a plus
les
jets régionaux,
on
n'a plus les avions hélices, puis on n'a plus les simulateurs.
Non, mais il est dans une situation, Bellemare et sa direction de l'entreprise, où il faut qu'il fasse en sorte que Bombardier redevienne viable et pourra reprendre son expansion. Pour l'instant, on en est encore en mode survie. Et ça me réjouit de dire, comme bonne nouvelle aux gens, non, vous n'aurez pas à débourser plus d'argent comme c'est là, parce que je pense que l'action est en train de reprendre vie.
Oui, mais comme tu sais, c'est pas juste l'action.
C'est pas juste ça qui compte, mais quand tu arrives en bas d'une pièce, m'a dit, tu commences à penser à faillite.
Mais c'est surtout que tu peux être acheté aussi à un moment donné quand l'action est trop basse.
Non, tu peux pas être acheté comme c'est là parce que il y a un actionnaire de contrôle. Il peut pas y avoir de takeover hostile sur un actionnaire de contrôle. C'est impossible.
Mais à moins que les
Ah, ben ça, c'est d'autres choses. À moins que Zoe vende. Pas sûr de ça.
Je sais pas. Entre ça puis crever, là.
Ils sont pas partis pour crever. Je pense qu'ils n'ont ramassé un peu dans la caisse populaire.
Ouais. Non, mais je parle d'entreprise à un moment donné qui finit par...
J'espère qu'elle va traverser la tempête.
On espère aussi. OK, à demain.
OK, bye.
Martin McGuire s'en vient de parler du match de ce soir. Canadiens Capitals.